Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Soins énergétiques, pratiques ésotériques, ces chemins spirituels attirent aujourd'hui beaucoup de personnes en quête de sens, mais ils peuvent aussi conduire à des dépendances et à des illusions. Mon invité a traversé ces expériences avant de retrouver une véritable liberté intérieure. Bonjour à tous et bienvenue dans Vivante Église. La quête spirituelle est très présente dans notre époque. Beaucoup de personnes cherchent aujourd'hui un sens à leur vie, une paix intérieure, une guérison ou une forme d'harmonie. Face aux blessures personnelles, aux grandes questions de l'existence, certains se tournent vers différentes pratiques qui promettent un mieux-être spirituel, parfois des guérisons. Soins énergétiques, développement personnel, pratiques ésotériques, Reiki, ces démarches peuvent sembler attirantes parce qu'elles donnent l'impression d'ouvrir des chemins spirituels nouveaux ou d'accéder à une connaissance plus profonde de soi. Mais derrière, certaines de ces expériences peuvent aussi se cacher des dépendances, des illusions ou une perte progressive de repères spirituels. Mon invité, aujourd'hui, connaît bien cette quête. Dans son livre « Vers toi reviendront les égarés », Nelly Gillan raconte avec beaucoup de vérité son parcours. Ancienne maître Reiki, elle s'est engagée pendant plusieurs années dans différentes pratiques spirituelles avant d'en découvrir peu à peu les limites et les pièges. Dans son parcours, elle revient sur ce chemin, sur les mécanismes qui peuvent conduire à la confusion spirituelle, mais aussi sur le parcours de libération et de foi qui s'est progressivement ouvert en elle. Nelly Gillan est mon invitée. Bonjour Nelly.
Bonjour Nathalie.
Merci d'avoir accepté cette invitation pour ce rendez-vous de Vivante Église. Cette interview se déroule en ligne. Alors au départ de votre cheminement, qu'est-ce que vous cherchiez profondément, Nelly Gillan, dans cette quête spirituelle? Et je rappelle pour les auditeurs qui vous découvrent et qui vont vous écouter, un livre vient de paraître aux éditions Artege, « Vers toi reviendront les égarés » et en sous-titre « J'étais maître Reiki, je suis revenu de l'enfer ». Et c'est tout le programme du jour. On vous écoute.
Alors, au début, ça n'a pas tout de suite été en fait une quête spirituelle. Au tout début, je cherchais à dialoguer avec ma maman qui s'était suicidée. Donc, je savais qu'il y avait une vie après la mort à travers l'enseignement un peu spirituel que j'avais eu dans ma famille. Dieu a toujours existé pour moi et donc voilà, je cherchais à commencer à dialoguer avec elle et s'est présenté à moi le spiritisme, donc l'invocation des morts. Alors j'ai commencé par le spiritisme, l'invocation à travers un pendule, à travers ensuite de ça un verre retourné et des lettres de Scrabble qui correspond un peu au Ouija, on pourrait dire. Et donc voilà, c'était la quête des esprits, et puis au fur et à mesure on voit qu'il y a un monde de l'au-delà avec plein de personnes en haut qui répondent, mais c'était une curiosité, on peut dire, au départ, et puis ensuite de ça une fascination dans ma jeunesse, parce que j'ai eu à un moment donné les sujets du brevet des collèges, j'avais des réponses à mes questions. Ensuite de ça, je me suis mise à tirer les cartes, donc des cartes avec un jeu de simple normal avec lequel on joue à la belote ou à la bataille. Ensuite de ça, j'ai tiré les cartes avec l'oracle de Béline, le tarot de Marseille. Donc là, c'était plus pour m'orienter, avoir une boussole, savoir quel était mon avenir. Chaque question que je me posais, en fait, j'y répondais par les cartes. Donc, est-ce que je dois aller dans telle branche? Est-ce que je vais avoir ce petit copain-là? Est-ce que, voilà, puis je tirais les cartes aux copines. Donc, ça a commencé comme ça dans toute la jeunesse, l'adolescence. Et puis, je vous dirais plus, au niveau de la vingtaine, alors là, il y avait une quête effectivement plus spirituelle de connaissance avec Dieu, d'union avec Dieu, et puis la libération en fait de la souffrance, parce qu'avec l'enfance que j'avais eue, eh bien j'avais un réel mal-être à l'intérieur de moi. Donc je cherchais le bonheur, je cherchais la paix, la joie. Et puis cette union, et puis ensuite de ça, j'ai cherché à guérir les gens. Et donc là, c'est venu avec justement les soins énergétiques, parce que je savais que Dieu guérissait, mais je ne savais pas comment. Donc ça a été vraiment une recherche ensuite de faire le bien aux autres, de manière physique, psychologique, mentale, spirituelle, parce que ma mère me répétait « tu seras médecin pour guérir maman ». Et j'avais entamé des études de psychologie, mais je les avais abandonnées lorsque je suis partie vivre en Guadeloupe. Alors, il y avait toujours cette soif en moi d'aider, de libérer, de délivrer. Et je savais que Dieu guérissait, mais comment pouvait le faire? Comment le faisait-il, étant donné que j'avais eu aucune foi chrétienne, instruction chrétienne, catéchisme? Donc, je cherchais une technique, parce que pour moi, Dieu guérissait, mais il fallait une technique, il fallait un mode d'emploi, il fallait un manuel.
Donc, voilà. Alors, permettez-moi de vous interrompre. Un livre, et c'est votre livre, c'est votre parcours, s'intitule « Vers toi reviendront les égarés ». Et sur cette couverture de livre paré aux éditions État, Artege, est écrit « J'étais maître Reiki, je suis revenu de l'enfer ». Alors sur cette couverture, vous vous présentez comme ancienne maître Reiki. Comment, Nelly, avez-vous découvert le Reiki et qu'est-ce qui vous a attiré dans cette pratique à ce moment-là ?
Alors, j'ai découvert le Reiki lorsque j'ai fait mes études d'hypnose. J'ai fait un diplôme au Québec, parce que après 12 ans de vie en Guadeloupe, je suis partie vivre au Québec. J'ai décidé de reprendre des études pour être un thérapeute, pour revivre cette mission à l'intérieur de moi d'être un thérapeute. Donc, lors de mes études d'hypnothérapeute, eh bien, il y a une personne qui m'a proposé le Reiki. Je ne connaissais pas, je ne savais pas ce qu'était le Reiki. Et lorsqu'elle m'a proposé le Reiki, ça a résonné en moi, comme si c'était ma mission de vie. Lorsque j'ai été jeune, j'avais été voir un médium à l'âge de 13 ans et demi, et il m'avait dit que j'aurais un cabinet, que je serais thérapeute et que je ferais des soins énergétiques. Mais à l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était. Donc pour moi, ça répondait vraiment à un appel, à une envie, un besoin. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Reiki, c'est une méthode, une initiation où on reçoit l'énergie, une énergie universelle de guérison, et par imposition des mains. Donc, c'est-à-dire qu'un maître nous initie à l'aide de symboles occultes et on peut ensuite recevoir cette énergie, s'en servir pour nous purifier et nous guérir nous-mêmes. Et ensuite de ça, si on veut poursuivre le parcours, eh bien, guérir, libérer, délivrer les autres. Et pour moi, c'était formidable, c'était ce que je cherchais, cette manière de guérir les autres avec cette technique, ce mode d'emploi, d'avoir des symboles, de retransmettre les symboles sur les gens et de pouvoir les libérer de leurs blessures émotionnelles, de leurs blessures physiques, et tout ça dans un cadre paisible, d'amour. Le patient est allongé sur une table et on effleure le corps et on laisse l'énergie circuler par l'imposition des mains. Et alors, le patient reçoit un effet immédiat.
D'ailleurs, je me permets, dans votre ouvrage, vous écrivez sur cet épisode aussi Reiki, puisque vous allez vous-même ensuite pratiquer, faire les formations jusqu'à devenir maître Reiki. Et ça, c'est tout au début. Vous écrivez « Il n'a pas besoin de toucher la personne, car l'énergie pénètre par les chakras qui sont comme des portes de l'âme. Il n'a pas besoin de prononcer des mots, car le Reiki transmet une énergie qui travaille toute seule. » Tout cela me tente et je fais l'essai d'un premier soin Reiki et vous écrivez et vous témoignez dans ce livre. C'est instantané, je me détends, je ne ressens plus de douleur, je dors bien, je me sens en paix et dans la joie, l'effet a été immédiat. Permettez-moi, et c'est pour ça que je vous reçois dans ce Vivante Église aujourd'hui et à travers cet ouvrage, mais quels sont les vrais dangers de ces soins Reiki? On entend bien la guérison dans ces pratiques, ça fait du bien, mais quels sont réellement les dangers?
Alors, en fait, on ne s'en rend pas compte des dangers, parce que comment on pourrait se rendre compte des dangers quand justement on reçoit autant de bien, autant de guérison, autant de miracles que j'ai vus dans mon cabinet? Donc, a priori, il n'y en a pas. Et tout le temps que nous sommes dans ces techniques de nouvel âge, on voit pas vraiment les dangers. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne me suis pas contentée du Reiki. Et oui, souvent, la plupart des thérapeutes ne se contentent pas du Reiki. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours, pardonnez-moi l'anglicisme, c'est ce qui me vient en tête parce que je suis au Québec, donc, mais il faut toujours upgrader les énergies. C'est-à-dire, dans le sens, il faut toujours faire des mises à jour. Ensuite de ça, on se dirige toujours vers plein d'autres choses. Et je dirais que c'est plus à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on n'est jamais rassasié. Ça ne suffit pas, en fait. C'est comme si cette guérison, elle est éphémère, elle est illusoire, elle n'est pas constante. Lors d'un soin Reiki, en fait, il faut toujours revenir faire un soin Reiki. On ne fait pas un soin Reiki puis on est guéri à tout jamais. Donc, on revient, vous savez, comme un téléphone portable qu'il faut toujours recharger. Donc, en fait, il faut toujours venir se recharger à la source Reiki. Et puis, les dangers sont venus progressivement. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment le réveil avec le Saint-Esprit qui m'a montré que c'est Jésus qui sauve et qui guérit véritablement. Je pense que si nous n'avons pas un réel réveil de la part de l'Esprit-Saint, il est extrêmement compliqué de se sortir de cela, puisque c'est difficile de voir les dangers. On ne comprend pas comment quelque chose qui, a priori, peut faire du bien peut être dangereux. Alors, Donc, seulement à la lumière de la Bible, de la parole. Bon, j'ai eu quand même des systèmes d'alarme.
Lesquels?
J'avais en fait mon caractère qui changeait énormément. Donc, c'est-à-dire que je devenais impatiente, irritable. Mon incarnation était devenue difficile. Donc, c'est-à-dire que j'étais toujours en fait branchée dans un monde spirituel, dans un monde à part. Faire les tâches quotidiennes de la vie était devenu difficile. Donc, il y avait je vous dirais, une perte de la réalité, une perte d'identité, une perte, et voilà, vivre ma vie de famille, ma vie d'épouse devenait difficile. Seule l'union avec Dieu comptait.
Alors, permettez-moi de vous interroger, de vous demander, dans ces périodes où vous avez pratiqué un certain temps ces différents soins, demandaient aussi différentes techniques, puisque vous êtes allé en plus du Reiki, vous avez fait de la voyance, vous avez fait de l'hypnose, et j'en passe. Et on peut aussi découvrir, et j'insiste auprès des auditeurs dans ce Vivante Église, c'est un livre précieux, puisque c'est tout votre parcours, une parole de vérité, vous dénoncez aussi ces pratiques. Voilà, et puis vous annoncez aussi, puisque vous parlez de ce réveil, de cette visitation du Saint-Esprit, de ce moment où Jésus vient vous visiter. Durant ces pratiques, hein, qu'est-ce que vous aviez l'impression de vivre intérieurement, Nelly Gillon?
Eh bien, au début, c'était vraiment de la paix, de la joie, d'être pleinement sur mon chemin, d'être dans la vérité, d'être dans ma mission de vie. Donc, pendant plusieurs années, hein, j'ai eu un sentiment de liberté, de délivrance, de guérison. Mais bon, ce que je me rendais compte, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, je n'étais pas satisfaite. Disons que le Reiki me faisait du bien un temps, mais c'est comme s'il y avait toujours besoin de plus. Ce n'était pas nourrissant, satisfaisant. Alors, il y avait toujours cette quête, en fait. Donc, la paix, encore une fois, la joie et la liberté étaient éphémères. C'est-à-dire que j'avais des moments d'union avec le divin extrêmement intense et des chutes extrêmement intenses aussi. Donc moi, en fait, je considère tout ça comme des drogues, en fait, des drogues spirituelles.
Une forme d'addiction, des addictions spirituelles.
Ouais. Oui, parce que on ne se satisfait jamais. Et vous voyez, là, je regarde parfois un peu les autres thérapeutes, ce qu'ils font. Ben, vous voyez, il y a toujours... Bon, là, ils sont rendus... l'énergie maintenant du Reiki est une énergie désuète. Donc là, on est dans une autre énergie encore. Donc vous voyez, c'est comme...
Oui, si... toujours des nouvelles énergies apparaissent.
Oui, c'est toujours sans fin. Il y a toujours un truc supplémentaire jusqu'à trouver cette fameuse union avec le divin. Donc c'est sans fin, on n'en finit jamais. Mais bon, à un moment donné, ils vont dire bon bah voilà, j'ai trouvé l'union, ça y est, je suis en union avec le divin. Donc il y a vraiment.
Alors, puisque vous parlez et vous nommez à plusieurs reprises le divin, mais quel est ce divin ? On est en contact avec qui dans ce divin ?
Alors en fait...
Quel est le Dieu ?
Bah c'est ça, quel est le Dieu ? Alors le Dieu, c'est un Dieu... un dieu de particules, un dieu partout, un dieu dans tout, un dieu dans les plantes, un dieu dans la lumière, un dieu, donc c'est un dieu de particules. C'est complètement différent du dieu du christianisme, du fils de Dieu qui s'est incarné sur la terre. C'est Dieu qui est partout, en tout, et c'est notre propre divinité. Donc réveiller sa propre divinité, son propre divin. Donc ça, c'est ce qu'on nous vend, hein, c'est ce qu'on nous vend d'aller atteindre ce Dieu, ce Dieu divin. Mais bon, au final, ce Dieu que l'on cherche, parce que les thérapeutes ont quand même une quête spirituelle qui est vraie, qui est noble, mais on se fait avoir dans le sens où ce Dieu que l'on cherche et avec lequel on veut s'unir à travers ces techniques, on ne le trouvera pas. Parce que ça nous prend la révélation et en fait on est connecté avec des anges, parce qu'il faut savoir des anges démoniaques, parce qu'il faut savoir que dans l'invisible il y a un royaume et il y a des anges de lumière et il y a des anges démoniaques, et souvent ce qui se passe c'est que ce sont des anges démoniaques qui se déguisent en anges de lumière pour nous attirer dans ces méandres et en fait se perdre dans cette espèce de grand tout, dans cette espèce de fusion de particules.
Alors permettez-moi, puisque vous parlez aussi de présence démoniaque, au fond maléfique, je me permets de lire un extrait de cet ouvrage que je conseille, chers auditeurs, n'hésitez pas donc à vous procurer ou à offrir autour de vous, si jamais vous connaissez des personnes qui sont dans ce genre de pratique énergétique, on est dans le monde un peu du nouvel âge. Ce livre s'intitule « Vers toi reviendront les égarés, j'étais maître Reiki, je suis revenu de l'enfer aux éditions Arthège. Vous écrivez, en voyant mes patients guéris de leurs maladies, libérés de leurs angoisses, délivrés de leurs maux et rassurés sur leur avenir, c'est fascinant, et vous l'écrivez, hein, de voir tant de miracles s'accomplir sous mes yeux et d'en être l'instrument. Si seulement j'avais pu imaginer que toutes ces lumières et ces guérisons étaient piégées et que les pouvoirs que j'avais reçus me mettaient insidieusement, ainsi que mes patients, sous l'influence de puissances maléfiques. Vous confirmez aujourd'hui, avec la pratique que vous avez eue dans le passé, Nathalie Gillan, de ces présences maléfiques dans toutes ces techniques que vous avez pratiquées auprès de vos patients ?
Oui, parce que voilà, on est piégé parce que seul Dieu guérit. En fait, les dons que j'ai reçus n'étaient pas des dons de Dieu. Dieu donne ses dons. On n'a pas besoin de techniques pour guérir. On n'a pas besoin d'être initié pour guérir. On n'a pas besoin de recevoir de symboles. On n'a pas besoin d'invoquer qui que ce soit ou quoi que ce soit, d'invoquer les constellations. Enfin voilà. Et dans toutes ces pratiques, bon bah ce n'était voilà, c'était l'invocation. Alors bien évidemment, on va dire oui, on invoque la source. Mais comment peut-on être sûr de quelle est cette source? Même l'énergie du Reiki, le moine l'a reçue comme ça, mais comment pouvons-nous être sûrs de ce que l'on reçoit? Et voilà, c'est à la lumière de ma conversion que j'ai vu à quel point tout ce que j'avais fait était faux, était erroné. Le Seigneur m'a vraiment montré que... la guérison passe par le Christ, hein, c'est le Christ, le Seigneur. Alors là encore aussi, dans le Nouvel Âge, on a Jésus, mais c'est un Jésus subjectif, c'est un Jésus qu'on s'invente, ce n'est même pas le vrai Jésus. Donc vous voyez, c'est très difficile et c'est très subtil de comprendre parce que moi, ce que j'ai compris par la suite, c'est que le vrai Jésus se trouve dans les Écritures et se trouve à travers l'Église. Et ce n'est pas un Jésus avec lequel on parle comme ça. Il y a quand même tout un cadre avec le Christ, tout un enseignement. Alors, on ne canalise pas Jésus comme moi je pouvais le faire. C'est complètement différent.
À un moment donné, des doutes ont commencé à apparaître dans votre esprit et puis dans votre cœur. Vous rappelez de ces moments où vraiment vous êtes profondément interrogé, comme une relecture aussi de toutes ces pratiques?
Ben oui, donc vous savez ce qui se passe aussi avec ces techniques-là, c'est que ça va bien un temps et voilà, et ça peut aller bien pendant longtemps. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai commencé à voir le médium John of God, qui est un des plus grands médiums au monde, qui guérissait, qui faisait des opérations à cœur ouvert, juste avec en touchant la personne. Enfin bon, c'était quelque chose de très très impressionnant. Et c'est comme si en fait la hiérarchie invisible à laquelle je me connectais devenait plus puissante parce que plus on avance dans ces choses-là et y a une hiérarchie aussi d'êtres maléfiques, hein, dans le fond, hein, et bien elle est de plus en plus puissante et donc les pouvoirs deviennent de plus en plus puissants. Et lorsque je suis allée voir ce médium et que je me suis initiée au Kriya Yoga de Babaji, et bien là j'ai senti qu'il y avait une énergie beaucoup plus forte que le Reiki. Donc là, les pouvoirs s'intensifiaient, c'est-à-dire que je déposais à peine mes mains sur une personne, qu'elle rentrait en convulsion, qu'il y avait des cris, enfin, ça devenait un peu effrayant. Et là, ça a commencé à mettre des sonnettes d'alarme. Et puis, une phrase aussi de mon mari, parce que mon mari, lui, n'étant pas dans toutes ces choses-là, avait un regard sur moi et sur ma pratique très rationnel, très ancré, très terre-à-terre. Et là, il a vu que ça commençait vraiment à partir dans une tangente qui était dangereuse. Et là, il m'a dit, si seulement tu pouvais être gentille, aussi gentille avec nous que tu l'es avec tes patients. Et puis, il voyait vraiment que mon caractère changeait. Je devenais irritable, impatiente, et que, bon, bah voilà, je faisais un peu fi d'eux. C'est-à-dire que seule l'ascension, l'augmentation des pouvoirs, comptait. Alors là, tout ça, ça a été des sonnettes d'alarme et puis aussi mon rapport avec ma fille. Je me suis fâchée violemment sur ma petite fille de 3 ans et demi et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et un jour aussi, je comptais mon argent à la fin de ma journée et je gagnais quand même un bon salaire, hein. Et là, ça me répétait à l'intérieur de moi, c'est pas ça être un serviteur de Dieu. C'est pas comme ça qu'on est un serviteur de Dieu. Donc c'est des petites sonnettes d'alarme comme ça qui sont venues tout autour et qui m'ont fait prendre conscience que oh là là, ça va pas là. Je suis en train de perdre pied. Je suis en train de me perdre. Et puis surtout, c'était ces hauts et ces bas. ces espèces d'états de communion, vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, comme un espèce de trip de drogue où on est dans un amour immense et le lendemain dans une dépression totale, à peut-être avoir même envie de mourir. Donc là, je me suis dit, ça marche pas, quoi. On peut pas, je pense pas qu'on puisse atteindre Dieu de cette manière-là.
Nelly Gillan, on se retrouve juste après cette pause musicale. À tout de suite.
Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur. Alléluia, 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 Alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix et répondra au comment, au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour.
Vivante Église, Nathalie Cardon.
De retour dans Vivante Église, nous sommes toujours en compagnie de Nelly Gillan à l'occasion de la parution de son livre « Vers toi reviendront les écarés » paru aux éditions Artege, dans lequel elle raconte son parcours à travers différentes pratiques spirituelles avant de retrouver une liberté intérieure. Alors, dans votre livre, Nelly, vous êtes toujours avec nous et c'est en ligne que nous vous retrouvons dans cette émission de Vivante Église aujourd'hui. Vous décrivez très bien le mécanisme d'emprise spirituelle. Comment ces formes de dépendance peuvent-elles s'installer progressivement et avec beaucoup de finesse, hein, au fond, des mécanismes qui sont trompeurs?
Oui, c'est ça. Vous faites bien, Nathalie, de dire progressivement et subtilement, parce que on voit vraiment pas ça venir. Encore une fois, je me répète, mais c'est quelque chose qui semble très bon, très noble, très lumineux. Donc voilà. Et en fait, bon, là où moi j'ai vu que ça commençait à mal aller, c'est que ça ne suffit jamais. Ça ne suffit jamais. On ne se contente jamais de ce qu'on a. Il y a toujours, toujours autre chose à aller explorer. Donc, si bien que j'ai été hypnothérapeute, maître Reiki pendant presque une dizaine d'années, mais j'allais toujours explorer d'autres choses. Donc, j'ai exploré le chamanisme, j'ai exploré les soins sacrés de la déesse Isis, et Osiris, les féminins et le masculin sacrés. J'ai fait de la lithothérapie, donc la guérison par les pierres, les bols tibétains, les bols de cristaux, la chromathérapie, enfin bon voilà, donc vous voyez, donc c'est toujours en fait éphémère, on ne se contente pas de ce qui est donné. Alors ça montre bien qu'il y a une dépendance, parce que on va toujours chercher quelque chose, et puis cette subtilité, bah dans le fait, c'est dans le fait que c'est bon et qu'on fait du bien. Par exemple, lorsque l'on prend de la drogue, bon, au bout d'un moment, on le sait, hein, c'est dit partout que la drogue, c'est pas bon. Mais le problème, c'est qu'avec ces techniques-là, on le dit pas que c'est pas bon. Alors on pense que c'est bon. Alors on continue et on continue et on continue, et jusqu'au jour où on voit que, eh bien là, on est en train de se faire progressivement une descente aux enfers, parce que on peut pas s'en sortir tout seul, on peut pas s'en libérer seul. Moi, ça m'a pris, voilà, ça m'a pris le réveil de l'Esprit Saint, et puis un cheminement qui m'a montré en fait que j'avais des entités à l'intérieur de moi. J'ai entendu à un moment donné le Seigneur qui me disait: tu as besoin de délivrance. Et voilà, et c'était très difficile à comprendre, étant donné que, bon, bah, moi-même, dans mon cabinet, je pratiquais soi-disant des délivrances sur les gens, donc à leur enlever leur mauvais esprit. Alors, bon, c'est un petit peu difficile pour un maître Reiki ou un thérapeute de se dire, bon, bah, j'ai moi-même des mauvais esprits.
Alors, comment vous avez réagi quand vous avez décelé, discerné que vous, maître Reiki, vous aviez à l'intérieur de vous, des entités de mauvais esprit?
Eh
Vous avez
bien,
couru vers le prêtre exorciste?
voilà.
Non, ça vient bien plus tard, mais permettez-moi.
Oui, c'est ça. Ça vient bien, bien plus tard. En fait, bon, quand on est thérapeute aussi, hein, on nous dit qu'il faut se protéger pour ne pas justement avoir chopé les mauvais esprits des patients. Hein, donc, bon, il y a tout un truc. On fait tout ça, on brûle de la sauge, on fait tous nos enracinements, on fait tout ce
Donc,
qui est
plein de
possible.
petits rituels, vous décrivez,
Voilà,
hein, oui.
plein de petits rituels pour se protéger. Et d'ailleurs, quand je me suis convertie, voilà, les thérapeutes que je côtoyais me disaient: oh, bah, c'est parce que tu t'es pas assez protégée. Donc, dans le fond, ils légitimaient pas ma conversion. Pour eux, c'était parce que je m'étais, voilà, j'avais attrapé les mauvais esprits des patients. Mais non, en fait, c'était pas ça. C'est ce qui s'est passé, c'est lorsque j'ai compris que le Seigneur, que Jésus me rappelait à lui, parce qu'au bout d'un moment, j'étais épuisée en fait de ne pas trouver cette plénitude, cette joie, cette paix que je cherchais, parce qu'elle était, comme je vous dis encore une fois, éphémère et ponctuelle. Il n'y avait pas quelque chose de beau. Il y avait en apparence quelque chose de sage, quelque chose de beau, mais profondément, je ne vivais pas ça. Et souvent, les thérapeutes qui venaient aussi dans mon cabinet n'étaient pas comme ça. Donc pour moi, il y avait un décalage entre ce que l'on proposait et ce que l'on était véritablement. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai supplié Dieu de me montrer sa grâce, de me montrer le chemin, de lui dire, mais où es-tu? Où es-tu? Parce que je te cherche partout, je veux vivre avec toi pleinement, mais je ne te trouve pas. Et voilà, et c'est à ce moment-là, en fait, que le Seigneur m'a montré que le seul moyen pour atteindre ce que je cherche, cette union, cette paix, cette joie totale et profonde, eh bien, c'est en passant par le Christ.
Vous évoquez aussi dans votre ouvrage l'influence de certaines personnes et parfois de certains groupes. Alors éclairez un petit peu les auditeurs qui vous écoutent dans ce Vivante Église aujourd'hui. Et merci.
Je suis venue à être maître Reiki, de se dire que bon, avec une initiation d'une fin de semaine, on va pouvoir se guérir, se purifier tous les jours, se mettre les mains sur nous et puis enlever nos maux physiques. Et en plus de ça, on va pouvoir aussi le faire aux autres. Donc il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Il y a quelque chose de... Voilà, c'est vous savez, quand on regarde les films à la télé, quand on est petit, ma sorcière bien-aimée, qui n'a pas rêvé d'avoir ses pouvoirs, en fait? Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous attire dans tout ça, sous couvert du bon. Voilà, quand on s'en va aussi
alors,
faire...
Alors, vous parlez de pouvoir.
Bah oui, parce qu'on reçoit des pouvoirs.
Donc, c'est toute puissance, vous parlez de toute puissance, là.
Bah exactement, c'est des pouvoirs, c'est de la toute-puissance, puisque on a après une fin de semaine comme ça le pouvoir de guérir, le pouvoir de libérer, avec l'initiation au Kriya Yoga de Babaji, on a le pouvoir de maîtriser les éléments, c'est-à-dire qu'on nous apprenait à envoyer de la pluie, à faire bouger les nuages, donc vous vous rendez compte un petit peu quand on dit ça à des gens, parce qu'en fait, mais on nous dit, on réveille le Dieu à l'intérieur de nous, on réveille notre nature divine puisqu'on fait partie de Dieu. Donc en fait, c'est nous mettre à la place de Dieu.
Mais Reiki, au fond, ça ressemble beaucoup, quand on parle de manipulation, d'influence, de toute puissance, de contrôle, de pouvoir, à un gourou.
Ah bah oui, tout à fait. Tout à fait, mais ça va jamais être présenté comme ça, quoi. En Inde, eux, un gourou, c'est un guide. Hein. Donc oui, on a les gourous indiens. Oui, tout à fait. On est des leaders spirituels, donc c'est-à-dire que lorsqu'on en fait notre métier, il y a plein de gens qui viennent à nous pour être guidés, pour être éclairés, pour eux aussi, ils veulent voir le chemin de comment atteindre le divin et comment réveiller leur nature divine et comment devenir en fait comme les gourous que l'on voit. Donc par exemple avec les gourous indiens que j'ai suivis, c'est sous forme de techniques, donc des techniques de respiration, des postures, c'est avec le yoga aussi souvent. Donc, parce que le yoga est fait pour se connecter avec le divin, avec Dieu. Donc, le yoga n'est pas simplement fait pour faire des exercices. Le but en soi-même du yoga est de s'unir avec le divin. Donc, voilà, il faut toujours faire des postures, toujours faire des respirations. Il y a toujours quelque chose à faire au final pour atteindre ce Dieu.
Alors pour ceux et celles qui vous écoutent maintenant, qui sont peut-être dans la pratique du yoga pour un mieux-être, que répondez-vous ? Danger ou pas danger ?
Mais danger, puisque comme je viens de le mentionner, le yoga, premièrement, ça vient d'Inde, donc c'est hindouisme, ça vient de l'hindouisme. Dans l'hindouisme, il y a des millions de dieux, donc on est loin d'un dieu unique, d'un dieu qui s'est incarné. Dans le christianisme, c'est une communion avec le Christ, c'est un dialogue avec le Christ, donc on ne fait pas le vide pour laisser rentrer quelque chose. Pas du tout. Le vide dans le christianisme est dangereux. Parce que lorsque l'on fait ce fameux vide-là avec le yoga, ou ces postures-là, c'est pour atteindre des divinités et non le Dieu. La salutation au soleil, on salue le Dieu soleil. Enfin voilà, chaque posture a un nom. On honore une divinité. Namasté signifie je salue le divin qui est en toi, donc ton Dieu intérieur. Donc comment ça peut être compatible avec nous qui est de communiquer, de communier avec le Dieu unique. On ne peut pas faire ça. Et lorsque l'on va dans des temples hindous ou dans des ashrams faire du yoga, on s'en va sur le territoire d'autres divinités. et non sur voilà. Donc on donne, on ouvre des portes, parce que les postures de yoga, les respirations sont faites pour ouvrir des portes. Et donc qu'est-ce qu'on fait rentrer dans ces portes-là? On fait rentrer les esprits des divinités hindoues, et c'est très dangereux.
Vous en êtes où aujourd'hui? Vous êtes une femme debout, relevée, ressuscitée? Racontez-nous. Nous terminons ce Vivant Église dans l'action de grâce avec vous.
Amen. Juste avant de parler de ma reconstruction, je voudrais vraiment dire que pourquoi j'ai dit l'enfer. Parce que ça m'a conduit en fait à une délivrance. Donc lorsque dans mon cheminement, le Christ m'a montré que j'avais plein d'entités, j'avais fait rentrer en fait par ces portes, à travers le spiritisme, la voyance, à travers le Reiki, à travers le yoga, on ouvre des portes. Et en fait, ces portes laissent entrer des mauvais esprits, et j'ai eu besoin de délivrance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette délivrance ne s'opère que par le Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ, de la Bible, du christianisme, qui délivre ces mauvais esprits. C'est par lui que les portes sont refermées. Donc, j'ai vécu 3 heures de délivrance, et c'était assez affreux à vivre, parce que là, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a une réelle emprise de ces esprits démoniaques à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'ils prennent notre volonté. On est un pantin dans les mains du diable, du démon, et on ne peut plus agir par soi-même. La volonté et la liberté est très, très entravé. Donc ça m'a pris mon cheminement avec le Christ. Je suis allée d'abord dans des églises protestantes où l'autorité des enseignements, c'est la Bible. Donc c'est-à-dire que l'on reconnaît que la Bible a été écrite, inspirée par l'Esprit-Saint et écrite par les apôtres, mais que c'est la parole de Dieu qui libère et délivre. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai lu le Nouveau Testament avec d'autres femmes qui m'ont expliqué, que les écailles sont tombées de mes yeux, et j'ai compris que la Bible était la parole divine. Donc à ce moment-là, lorsqu'on reconnaît que la Bible, c'est l'autorité, c'est l'enseignement de Dieu pour son peuple. Donc à partir du moment où on la lit, et qu'on décide de l'écouter, cette parole, de lui obéir à cette parole, eh bien, il y a des versets qui sont indéniables. Et Deutéronome 18:10 qui dit tu ne pratiqueras pas la magie, tu ne feras pas l'invocation des esprits. Donc voilà, tout ce verset, c'était moi en fait. Donc au bout d'un moment, la vérité est par nature exclusive. Donc, on n'a pas le choix. C'est ou on accueille cette parole, ou on ne l'accueille pas. On ne peut pas être à moitié ou être tiède. Donc, j'ai pris cette parole et je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai un choix à faire. Donc, j'ai décidé de suivre le Christ à travers sa parole, son enseignement qui est dans la Bible et non dans l'évangile selon Mariana, non un médium qui canalise Jésus, mais bien par l'autorité de la Bible. Je m'excuse, j'insiste, mais c'est très important.
Nelly Girons, aujourd'hui vous êtes catholique, c'est bien?
Oui.
Ça, voilà.
Oui,
donc si quelqu'un nous écoute maintenant, vous a écouté et se reconnaît un peu dans cette même quête que vous avez eue dans le passé, cette quête spirituelle, peut-être à travers le Reiki, à travers le spiritisme, la voyance, toutes les nouvelles pratiques énergétiques liées au nouvel âge, quel message aimeriez-vous lui adresser? Très vite, et après on peut vous lire avec ce livre, je rappelle le titre, Vers toi reviendront les égarés, j'étais maître Reiki, je suis revenue de l'enfer aux éditions Artege. Merci Nelly Gillerand, je vous laisse répondre.
Eh bien, que je comprends sa quête, que je compatis avec sa quête, et comme je dois faire très vite, je vais comme être un peu directive, mais voilà, tout ce qui est cherché ailleurs, ce sont des illusions. Le Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Donc, il faut suivre le Christ à travers la Bible, et plus encore, après, il faut poursuivre sa marche, jusque dans l'Église, parce que l'Église catholique est l'enclos à travers la confession, à travers les sacrements, et il faut poursuivre sa marche à travers les sacrements, c'est-à-dire qu'il faut aller recevoir l'Eucharistie, il faut aller à la messe, il faut vivre des sacrements et du chapelet, parce que la marche continue toujours, toujours, toujours avec le Christ à travers son Église. Il est là le chemin du bonheur.
Et vous avez nommé aussi Marie, vous avez nommé le chapelet. La Vierge Marie est importante aujourd'hui dans votre parcours, Nelly Gillan ?
Elle est extrêmement importante, extrêmement, parce que Marie est une mère qui nous conduit véritablement dans la pleine connaissance du Christ, parce que sa vie n'a été tournée que pour montrer Jésus. Donc à partir du moment où on prend Marie pour mère, comme Jésus nous l'a demandé, voici ta mère, il l'a dit à Saint Jean au pied de la croix, et bien lorsque nous prenons Marie, nous avons une assurance que nous suivons le Christ dans les bonnes rails, et non dans des rails à côté, des esprits qui voudraient nous dire qu'on suit Jésus ailleurs. La seule possibilité de suivre le Christ, c'est avec la Vierge Marie dans l'Église.
Alors, merci infiniment, Nelly Gillan. Je rappelle qu'on peut aussi, et vous faites une tournée en France actuellement, et vous pouvez, si vous le souhaitez, faire intervenir Nelly Gillan, qui a été ancien maître de Reiki et qui est, vous l'avez entendu, est revenu de l'enfer et qui est aujourd'hui catholique. Merci Nelly et bonne tournée.
Merci infiniment de m'avoir invitée, Nathalie.
Au revoir.
Au revoir.